Boulez, c'est un très grand musicien, bien sûr, mais il n'a pas fait un chemin comme Pierre, qui a commencé et qui n'a pas quitté depuis le début ce qu'il était, ce qu'il voulait. C'est-à-dire il était très conséquent dans tout ce qu'il faisait, jusqu'à aujourd'hui.
J'avais donc été amené à faire partie d'une petite équipe qui, dans un local avenue de la République à Paris, on avait installé un nombre considérable de générateurs basse fréquence, qui sont des objets qui servaient à l'époque dans les ateliers de radio, etc. Et puis un monsieur que je ne connaissais pas du tout, pas même de réputation, est arrivé, et c'était Varèse, et on a fait toutes sortes de sons qui s'enregistraient sur un magnétophone, je crois que c'était un Dumoulin, des marques qui n'existent plus depuis longtemps, et c'était avec ces enregistrements-là qu'un peu plus tard, dans la foulée, Varèse a fait le poème électronique qui était présenté à Bruxelles. Ce hasard a fait que, dans les années 58, tout d'un coup, je me suis retrouvé devant un phénomène qui ne m'a pas directement intéressé, mais qui était finalement la musique électronique. Je ne savais pas faire des œuvres électroacoustiques. Voilà. Tout ça, c'est un ensemble de circonstances qui se sont enchaînées et qui font que mes désirs sous-jacents faisaient que j'étais très attiré par la technique et que, comme j'étais aussi attiré par le théâtre, la conjonction de ces deux éléments, je me satisfaisais bien et j'ai tout de suite ressenti ce terrain vivifiant qu'il y avait à tout d'un coup introduire cette dimension qui est celle, je dirais, du haut-parleur, c'est-à-dire un personnage qui est ressenti probablement comme tel par le public, mais qui n'est pas sur scène, qui n'est pas présent, qui est virtuel.
Et si je me concentre, et toujours avec ma propre voix, me la ralentis, dans l'atmosphère compassée à ses cuisses, que je prêterais volontiers à Heidegger, voici un tout autre personnage.
Par le son, les dimensions de la scène et sa localisation éclatent. Et la scène est une sorte d'écran, alors que le haut-parleur, lui, n'est pas un écran. Et cette capacité de créer d'autres espaces pouvant jouer avec l'espace scénique d'Izzy était pour moi quelque chose de très, très excitant. Au micro, la voix peut passer dans différents registres. Pour simplifier, je dirais qu'il y a trois registres. Il y a la voix naturelle, celle dont je me sers actuellement. Et puis tout d'un coup, il y a la possibilité de faire une voix intérieure. Alors la voix intérieure, elle se fait au micro en détimbrant.
Oh, oh là là, qu'est-ce que je suis en train de raconter là? Qu'est-ce que c'est pas possible?
Cette chose-là sera, si elle est bien faite bien sûr, perçue par l'auditeur comme la voix intérieure de l'acteur. Ce qui fait qu'on peut, et on a vu souvent, voir un acteur se promener sur scène et on entend sa pensée dans le haut-parleur.
Ça, c'était la résolution. Et enfin, il y avait la voix murmurée. Et la voix murmurée au théâtre, c'est vraiment une convention. Je parle doucement. Et rien que ça amène, pour certains metteurs en scène, des registres qui ne remplacent rien, qui ajoutent des possibles.